top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes.
You are fake news. Hello.
Il est 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant Rêve.
Vous êtes en direct, allez-y.
À quel âge faut-il former nos enfants aux mensonges, rumeurs et complots qui circulent sur Internet? Mais au fait, et on devrait commencer par là, à quel âge nos enfants sont-ils exposés aux mensonges, rumeurs et complots qui circulent sur Internet? En entendent-ils parler dans la cour de récré ou surfent-ils eux-mêmes de bobards en fausses informations? Une maîtresse d'école invitée de l'Instant M. Avec des CM2, elle chasse les hoax. On va vous expliquer ce que c'est, évidemment. Ce qui signifie forger un sacré esprit critique chez des tout-petits et surtout leur inculquer les outils de l'autonomie face à l'info, se poser les bonnes questions, savoir où trouver les bonnes réponses.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour Rosemarie Farinella.
Bonjour.
Comment vous appelle vos élèves? Maîtresse?
Maîtresse, Rosemarie.
Rosemarie, je précise que vous êtes institutrice en maternelle et que vous êtes très attachée à votre classe de maternelle.
Absolument.
C'est une première année, une deuxième année, une troisième année de maternelle?
J'ai des petits et moyennes sections.
Petits et moyennes sections, voilà. Et que toutes les semaines, vous animez cet atelier dont on va parler aujourd'hui. Vous l'avez fait pendant 4 ans avec un groupe de CM2. Ça vous a valu le prix mondial de l'éducation aux médias décerné par l'UNESCO et remis à Kingston en Jamaïque. Oui. Ça devait être assez rigolo. Et je vous reçois aujourd'hui pour votre contribution à cet ouvrage qui paraît au PUF, des têtes bien faites, défense de l'esprit critique. Chère maîtresse, on y revient dans un instant. À nos côtés, comme chaque mardi matin, il y a Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Voilà, et la fenêtre de la porte, elle s'ouvre ce matin
sur un retour, une autre manière de revenir sur la Ligue du LOL et autres histoires de ces derniers temps. Il y a quelques jours, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a expliqué qu'il réfléchissait à introduire une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme en permettant aux usagers d'annoter leurs anciens messages. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez écrit sur Twitter un message qui comporte une erreur, qui relaie une fausse information, ou même qui ne correspond plus à ce que vous pensez aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit le laisser tel quel, au risque qu'il soit un jour déterré et puisse vous être reproché.
Sans blague, ça arrive beaucoup en ce moment. Et à beaucoup de gens.
C'est devenu une pratique courante, On l'a beaucoup vu ces derniers temps. L'autre possibilité, c'est de supprimer le message avec le risque de passer pour lâche ou de devenir suspect. Et des outils de métrique permettent de savoir quand vous supprimez des messages.
Et ça aussi, c'est beaucoup médiatisé.
Exactement. Et le risque aussi que ce message continue d'exister ailleurs, même si vous l'avez supprimé, sous la forme de capture d'écran, par exemple. Alors, aucune des deux solutions n'est satisfaisante. Ce que propose Twitter, c'est donc d'en introduire, ou ce que proposerait Twitter, c'est d'en introduire une troisième solution, c'est l'annotation. Alors, même si Dorsey n'est pas entré dans les détails, on peut imaginer que l'annotation pourrait permettre de remettre en contexte un message, de le corriger, mais sans modifier le message d'origine, voire carrément de s'en excuser. Alors, moi, j'aimerais beaucoup que cette fonctionnalité voit le jour pour plusieurs raisons. D'abord, ce serait un signe encourageant qu'une entreprise cherche à régler les problèmes qu'elle pose. Assez peu courant. Cette question de l'archive, des usages de l'archive, ne se posait pas au début de Twitter, mais maintenant que les gens peuvent avoir 10 ans de vie sur Twitter et qu'ils sont responsables de cette vie, il est important qu'il y ait des solutions plus fines que celles qui existent aujourd'hui. Ensuite, je vois une vertu quasi philosophique.
Parce que avant la philosophie, il faut expliquer, c'est en fait, j'ai un vieux tweet et je rajoute moi-même un petit commentaire pour dire, c'est un vieux tweet, c'est faux, c'est bidon ou je le regrette.
C'était mis en place, ce serait ça. Alors ensuite, une vertu quasi philosophique à cette possibilité d'annoter ses anciens tweets, imaginez si l'on pouvait remonter la timeline de quelqu'un, c'est-à-dire remonter dans ses anciens messages. Et non seulement retrouver la trace de ce qu'il disait des mois, des années auparavant, mais aussi, grâce aux annotations sur ses anciens tweets, constater une réflexion dans le temps, une évolution, des remises en question. Ce serait passionnant et ça me fait penser aux essais de Montaigne. Du fait des éditions successives, des ajouts apportés par Montaigne, on y mesure l'évolution de la pensée de l'auteur sur les sujets qu'il occupait déjà des années auparavant. Et c'est une des richesses des essais. Alors je dis pas que tout tweetos a la profondeur de vue de Montaigne. Mais je suis persuadé qu'on rend les gens moins cons en leur donnant la possibilité d'être moins cons. Enfin, donner la possibilité à chacun d'annoter ses anciens messages plutôt que de l'obliger à les supprimer, c'est donner à chacun un droit au changement. De lui donner le droit de changer. Aujourd'hui, Internet n'offre pas d'alternative entre la nécessité d'assumer tout ce qu'on a été et un droit à l'oubli dont l'exercice est encadré par des conditions assez strictes. Or, il me semble que le droit de changer, de dire qu'on a changé, de montrer en quoi on a changé, comment on a changé, est beaucoup plus riche et beaucoup plus proche, finalement, de ce que permet la vie. Je ne pense pas que dans la vie, on reste toujours les mêmes. Je ne pense pas non plus qu'on puisse oublier ce qu'on a été ou demander aux autres d'oublier ce qu'on a été. Changer, en revanche, on peut. Et si la technologie offrait un jour la possibilité de montrer qu'on a changé, il n'y aurait plus aucune excuse pour ceux qui ne le font pas.
Merci beaucoup Xavier. À réécouter sur franceinter.fr. Et donc on ne sait pas si Twitter va mettre en place ou non cette jolie idée de Jack Dorsey.
On aura réfléchi.
Allez, on part à Taninge, en Haute-Savoie.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
On lève la souris d'une main, on met la main contre son cœur. Et qu'est-ce qu'on dit ? Le serment de la souris. Allez-y.
Je jure sur la tête de la souris de mon ordinateur qu'avant d'utiliser ou de retransmettre une information, toujours je la vérifierai.
Voilà l'atelier animé par notre invité, l'institutrice Rosemarie Farinella avec des CM2. Je précise que à Taninge, on est en zone A, donc on est en vacances. Bonnes vacances à vous tous les enfants. Et que là, on vient d'entendre un extrait d'un reportage qui a été tourné dans votre classe par une chaîne YouTube qui s'appelle l'hygiène mentale. Vos enfants sont donc en CM2. Ce serment de la souris, le prête à chaque séance, Rosemarie Farinella, ou c'est une sorte de cérémonie finale?
C'est une cérémonie finale au mois de juin. Oui. Ça leur rappelle que il faut suspendre son jugement avant de cliquer sur « je partage ». Il ne faut pas se laisser envahir par les émotions, par la passion, par notre attrait vers l'irrationnel. Avoir du temps, voilà, de vérifier l'information.
Très, très concrètement, ces enfants, Rosemarie Farinella, est-ce qu'ils surfent déjà eux-mêmes sur le web, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas la même chose que YouTube. Est-ce qu'ils ont des smartphones? Est-ce que c'est sur l'ordi de papa et maman à la maison? Je vois Xavier Delaporte qui me regarde comme si j'étais complètement
non,
idiote. Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler des complots X ou Y? Est-ce que dans la cour de récré, ou est-ce qu'ils ont déjà visionné eux-mêmes, ces enfants de 9-10 ans, des vidéos conspirationnistes?
Alors, il faut savoir que bon, les enfants, en tout cas en CM2, la quasi-totalité des élèves surfent sur Internet.
Ouais. Hein,
donc ils sont soumis au même risque que leurs aînés. Mm-hmm. Et oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut leur donner des outils d'autodéfense intellectuelle. Ouais. À cet âge-là, avant qu'ils n'entrent.
Mais je veux dire, quand ils vous disent « maîtresse, j'ai entendu parler des reptiliens alors, et des Illuminati », où ils ont vu eux-mêmes les montages de vidéos conspirationnistes ?
Ça dépend des enfants.
D'accord.
C'est très, très hétérogène. Il y a des enfants qui sont des experts en aliens, en Illuminati, en zone 51, et d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. C'est vraiment très hétérogène.
D'accord.
Et des enfants plus ou moins vulnérables.
Oui.
Voilà.
Plus ou moins vulnérables et plus ou moins exposés.
Oui.
Vous enseignez à l'école publique.
Public, oui.
Quelle est la population du quartier? Est-ce que c'est un quartier plutôt bourgeois, plutôt populaire?
C'est très hétérogène.
C'est très hétérogène et très mélangé.
Oui.
Et très mélangé. Pourquoi vous utilisez des masques et pourquoi vous leur faites porter des masques à ces enfants?
Alors, les masques, c'est le côté ludique, c'est le côté on est des détectives masqués du web.
Mm-hmm.
Et puis aussi, ça permet, comme ils se filment entre eux, d'avoir une... De masquer leur identité. Comme ça, on peut diffuser les photos et les vidéos sans problème.
Ça les fait réfléchir aussi sur ce que c'est que quelqu'un qui agit masqué, puisqu'il y a un grand débat qui va s'ouvrir sur l'anonymat.
Oui, on discute de l'anonymat. Mais je vous dis, là, c'est la dimension aussi vraiment ludique qui est mise en avant. Quand on commence à tourner, la classe, il y a un silence total et tout le monde joue le jeu et les enfants sont trop contents de pouvoir donner des conseils et montrer comment on débunk, comment on démonte les fausses informations.
Alors, est-ce que les enfants vous en apprennent, à vous, ancienne journaliste devenue institutrice, est-ce qu'ils en apprennent à leurs parents? Est-ce que, à travers ce que vous apprenez aux enfants, vous essaimez finalement dans les cercles familiaux?
Bien sûr, ils apprennent à leurs parents et à leurs frères et sœurs, parce que la preuve, l'année dernière, mon atelier d'éducation aux médias était sous forme du volontariat et tous les petits frères et les petites sœurs voulaient s'inscrire. Donc, ça c'est une preuve tangible. Et puis, bien sûr, ils en parlent à la maison. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré, mais en tout cas, je sais quand je rencontrais les parents, ils étaient enthousiastes et leurs enfants étaient enthousiastes de cet atelier.
Alors, ce qui m'a extrêmement intéressée dans votre démarche, c'est que, à vos yeux, pour comprendre ce qu'est une fausse information, il faut d'abord comprendre ce qu'est une vraie information. Et là, vous faites un travail avec ces tout-petits qui est quand même extrêmement précis et intelligent, puisque vous leur demandez d'abord de se mettre dans la peau d'un journaliste, Rosemary Farinella.
Oui, alors d'abord, ils interviewent des journalistes, oui. ils voient comment l'information est construite, ils explorent différents médias, mais aussi, effectivement, ils se mettent dans la peau de journaliste en faisant des improvisations. Mmh. Alors, ça leur permet de comprendre que on peut recueillir des points de vue contradictoires et de travailler sur les notions d'objectivité et de subjectivité. Est-ce que l'objectivité existe ? La notion de source qui est très importante pour comprendre après la notion de fausse information.
Mais vous donnez des exemples passionnants, par exemple la couverture médiatique d'une manif, la couverture médiatique d'un accident de voiture, l'arrestation d'un suspect supposé détenir un drapeau de l'État islamique dans un village pas très loin de Taninges. Les enfants ont été confrontés justement à des divergences extrêmement révélatrices du traitement de l'information.
Oui, et alors, c'est très rigolo quand on fait les improvisations. Vous parliez de l'accident de voiture. Donc, il y a des enfants qui jouent le rôle des journalistes et d'autres qui jouent le rôle des personnes interviewées. Mmh. Donc, il y a un policier qui disait, dans son rapport, il y a eu un mort et deux blessés. Et 20 minutes plus tard, il y a un élève qui est témoin et qui dit « J'ai vu trois morts ». Alors les autres lui disent « Mais non, c'est pas possible ». Et il n'en démordait pas, il a vu du sang partout. J'ai dit aux autres « Mais laissez-le, c'est ce qui se passe dans la réalité ». Et alors qu'est-ce que fait le journaliste ? Est-ce que tous les témoignages ont la même valeur ? Et est-ce qu'il y a la même fiabilité de l'information ? Que fait le journaliste dans ces cas-là ? Et bon, la manifestation contre la chasse, ça c'est très très intéressant parce que c'est un sujet clivant. Donc que fait le journaliste si il ne rapporte que le point de vue des écologistes ou que le point de vue des chasseurs ? Est-ce qu'il est et si lui-même est chasseur ou écologiste ? Et aussi donc ça permet d'aborder les notions de biais de confirmation parce que la tendance à n'écouter, ne s'intéresser, ne relayer que les informations qui vont dans le sens de vos opinions.
C'est ça. Et alors le magazine de Anne Niva, dans Quelle France on vit, diffusé sur RMC Story, est venu vous filmer récemment. Et ce jour-là, vous soumettiez aux enfants un papier très sérieux, écrit très sérieusement, sur des réunions alors où se décide la marche du monde, Xavier, et qui se sont tenues en secret, l'une sur Saturne, l'autre sur Jupiter. Encore faut-il pouvoir y aller.
C'est pas facile de répondre à cette question.
Oui, parce que s'il y va, il faut 200 ans et aucun humain ne peut vivre jusqu'à 200 ans.
Comment savoir combien de temps on met pour aller sur Saturne ? Comment savoir ?
Je sais pas. On va croiser des informations sur Internet.
Alors, on va téléphoner à un astrophysicien qui va vous répondre. Alors, on y va. Oui, bonjour. Voilà, c'est Rosemary Farinella au téléphone. Je vous appelle avec les apprentis Hoaxbusters qui voudraient vous poser une question.
La question, c'est combien de temps il faut pour aller sur à Jupiter et aussi à Mars.
Ce qui est extrêmement intéressant dans votre démarche, c'est que vous leur donnez les outils de l'autonomie. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est-à-dire posez les bonnes questions. D'abord, quels sont les 5 W ? Allez-y, maîtresse, quels sont les 5 W que pose le journaliste ?
Bah, quoi, où, qui, comment, pourquoi.
Voilà, et W parce que c'est
en anglais.
En anglais.
Where, when, why.
Voilà, posez les bonnes questions. Oui. Et puis surtout, allez chercher des sources. Et s'il faut savoir interroger des adultes, eh ben, on apprend à interroger des adultes pour aller chercher une source.
Absolument. Et puis, surtout, donc, croiser les informations avec plusieurs sites fiables, ce que j'appelle sites fiables, c'est dans lesquels des journalistes professionnels travaillent. Mmh. Et surtout, quand on a une information, on décortique le contenu de l'information et on remonte à la source, à savoir qui a écrit l'article, à quelle date, sur quel site. Et c'est pas facile d'identifier. Et pour leur âge, la date de l'article et la date de l'événement. Mais il y a plein d'adultes aussi qui font la confusion.
Oui, oui, bien entendu. Oui, oui, bien entendu.
Et il suffit de mentir justement sur un paramètre en racontant que l'événement s'est passé récemment alors que c'est un vieil événement qu'on ressort. Et du coup, l'information est fausse.
Ce qui est extrêmement aussi intéressant dans ce que vous restituez de cette expérience, c'est que vous achevez l'année sur cette question. Comment on pourrait combattre tout ça puisque les enfants ont vu passer toute l'année enchaîné de quantités astronomiques de bobards délirants ou de choses déformées. Et vous leur soumettez la question des robots.
Oui, alors, c'est-à-dire, je leur ai demandé, à votre avis, que peut-on faire pour lutter contre les fausses informations? Donc, pour eux, évidemment, ce qui vient naturellement, d'abord, ils disent faut censurer. Donc, oui, mais le problème, à ce moment-là, on est obligé de parler de liberté d'expression, parce que c'est, ça fait partie quand même de nos démocraties. Donc, que fait-on? Alors, ils sont assez dépités. Et puis après, vient la question de... Eh bien, à ce moment-là, on demande à des robots de le faire, puisqu'ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de nationalité. Et donc, ils sont neutres, objectifs. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des humains qui programment les robots. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour empêcher la diffusion de contenus haineux?
Alors, où cette photo a-t-elle été prise? Parce que, évidemment, vous travaillez aussi beaucoup sur les images.
Bah, pour moi, c'est pas forcément en Chine, parce que quand on regarde sur un immeuble, il y a des écritures françaises, enfin, anglaises, et il y a une roue où c'est marqué en chinois. Et donc, on peut aussi croire que c'est aux États-Unis et que c'est une rue chinoise.
Derrière, quand tu regardes plus loin, eh ben, t'as l'impression que c'est aux États-Unis parce qu'il y a, l'architecture et t'as l'impression que c'est des buildings.
Eh ben, viens au tableau.
Les fake news, ça passe beaucoup, beaucoup par l'image.
Par l'image, oui. Ils sont, les élèves baignent dans un océan d'images. C'est pour ça que c'est important de leur proposer des balises pour s'opérer dans cet océan d'images et de naviguer à la lumière de la raison et sans se laisser entraîner dans les eaux troubles des illusions, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, des illusions. C'est justement ce qu'on apprend dans, je reprends l'improvisation sur la manifestation. Donc, où est-ce qu'on va se mettre pour prendre une photo?
Vous leur apprenez à recontextualiser l'image.
Voilà.
Et surtout, vous leur faites réfléchir à ce que c'est qu'un cadrage. Ce qu'on montre et est-ce que la photo ne montre pas, ce qui est hors champ, justement.
Oui. Et je leur ai demandé aussi, par exemple, d'aller faire un reportage photo dans leur village à Taninges pour montrer que sans aucune manipulation, de montrer que Taninges est le plus beau village de France et que Taninges est le plus laid village de France.
C'est ça.
Donc, et puis aussi de leur montrer que juste en changeant l'angle de vue, suivant l'angle de vue, par exemple, toujours sur la manifestation, si on voit un jeune homme en train de courir pour sauter sur un homme qui a une mallette, on peut croire que c'est pour lui voler sa mallette, mais en fait c'est pour le sauver parce qu'il va recevoir un pot de fleurs sur la tête. Donc il y a l'angle.
Un dernier mot parce que l'émission est terminée. Rosemarie Farinet, quand on regarde les reportages qui ont été tournés dans votre classe, ces enfants sont d'une dextérité avec les moteurs de recherche et tous les outils informatiques et numériques que vous leur proposez, qui est quand même sidérante. Oui, bien sûr.
Et chaque année, je suis bluffée par la pertinence de leurs remarques et de leurs...
Mille merci d'être venu nous raconter cette expérience extrêmement inspirante, à mon avis, pour les collègues de l'enseignement. Bonjour Ali Réveilly.
Bonjour Sainte Ville.
Alors, les tâches de rousseur.
Oui, on parle surtout des roues, des idées reçues autour des roues, entre discrimination, clichés éculés, poncifs, sur les roues, je ne vais pas vous les citer là. Et puis, il y a une fierté roue. Qui revient aujourd'hui dans les années 2010. Et donc, on va évoquer tout ça. Et on reçoit notamment l'historien Michel Pastoureau, qui va nous expliquer un peu l'histoire de la rousseur. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure.